On continue notre petite étude sur les différentes positions qu'on a en Jésus. Bon, plus qu'on avance là-dedans, plus qu'on approfondit, puis chaque étude, je la trouve extraordinaire, on apprend des choses. Puis même si c'est des choses qu'on savait déjà, parfois ça arrive, mais ça nous les renouvelle pour qu'on puisse baser notre foi, enraciner notre foi. Chaque fois qu'on entend la parole de Dieu puis qu'on dit des « Amen », c'est comme s'il y a des racines qui poussent en nous, puis on s'enracine, on croit dans ces écrits-là, puis on les confesse, puis on dit « Amen », c'est ce qu'on croit, puis qu'il en soit ainsi. C'est ce qu'on veut, s'affermir dans la parole. Le sujet qu'on regarde aujourd'hui est un peu une suite de la semaine passée. La semaine passée, j'ai prêché sur que grâce au Christ, nous ne sommes plus sous la loi de Moïse. Mais on continue à comprendre qu'il y a une continuité dans cette idée-là, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Nous sommes, grâce au Christ, maintenant sous la grâce de Dieu. Puis on va approfondir des versets dans ce sujet-là pour nous faire comprendre c'est quoi être sous la grâce. Parce qu'on l'entend souvent, ce mot-là, nous sommes sous la grâce. Puis des fois, il y en a qui le mettent tellement large que si c'est sous la grâce puis c'est pas par nos œuvres, ça veut dire qu'on peut faire n'importe quoi, c'est pas grave. Non, c'est pas ça que ça veut dire. On va le voir aussi avec la continuité la semaine prochaine. J'encourage d'être là puis d'écouter ce message-là parce que ça va comme englober les deux autres puis nous faire comprendre qu'est-ce qu'un chrétien doit faire quand il est sous la grâce, justement. Savez-vous dans quelle période nous sommes aux yeux de Dieu? Des fois, on écoute un film de... Comment il s'appelle, celui qui était perdu sur une île? Là? Robinson Crusoe, ou des affaires de même. Puis il écrit son journal personnel à tous les jours. L'an de grâce 1600, quelque chose. Bien, nous, présentement, on est dans l'an de grâce 2017. Ça veut dire qu'il y a eu un moment où ce que les années de grâce ont commencé. Puis ça fait 2017 ans, en théorie, si on se trompe pas quand on calcule, là, 2017 ans que la grâce de Dieu est ouverte, que les flots, l'abondance de la grâce de Dieu puissent se répandre. Puis en étant en an de grâce 2017, ça veut dire qu'on est encore dans la période de grâce. Une période de grâce donnée par notre Dieu. Depuis la venue de Jésus, l'ouverture des flots des diverses grâces de Dieu sont déversées. Ça n'en était pas de même avant, depuis le début de la création, jusqu'à temps que Jésus vienne. Oui, la grâce était là, était déversée, mais sur peu de personnes. Parce qu'il y en a peu qui étaient dans les conditions, bien entendu. Il y a des conditions pour saisir la grâce de Dieu. Puis on va le voir dans l'étude. Puis en même temps, c'était pas dans le plan de Dieu que ce soit déversé sur une multitude. Mais aujourd'hui, à cause de Jésus, c'est le contraire. La grâce s'étend pour tout le monde. Puis on va le voir dans certains versets. La venue de Jésus dans ce monde a été la source des diverses grâces de Dieu. Parce que Dieu n'a pas juste donné une grâce. Quand on comprend le mot grâce, là, c'est grâce ou c'est faveur ou c'est libéralité. Ça veut dire que Dieu, il a commencé à déverser des choses à du monde qui ne méritait rien. C'est des cadeaux, des faveurs qu'il fait. La libéralité, à cause de sa générosité, il donne. Pas parce que les gens le méritaient. C'est quelque chose que lui a décidé, je vais commencer à déverser mes bontés. Puis entre parenthèses, malgré qu'il ne le mérite pas. C'est ça la grâce. C'est de recevoir des bontés, des cadeaux, des bénédictions qui viennent de Dieu, même si on ne le mérite pas. Dans Luc 4, 18 et 19, Jésus, quand il a commencé à présenter son ministère, il était dans le temple ou dans une synagogue, puis il était en train de prêcher, puis il sort un rouleau, puis il lit dans un passage dans Isaïe, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Jésus avait reçu une onction de Dieu le Père pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce venant du Seigneur. Jésus était, quand il était sur la terre, il a reçu une onction de Dieu le Père. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il a reçu l'onction de bénir les gens qui étaient autour, même si personne ne méritait rien. C'est une année de grâce. Puis le mot année veut dire une période de grâce qui était ouverte à partir du moment où Jésus a reçu cette onction-là. Puis Jésus était l'accomplissement de la promesse, que on l'a vu dans d'autres prédications, l'accomplissement de la promesse d'Abraham. Quand Abraham a dit, Dieu a dit à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Ça sous-entendait Jésus. Jésus était le début de la bénédiction de Dieu qui était pour découler sur toute la terre. Jésus avait reçu l'onction pour guérir ceux qui sont aveugles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour délivrer les captifs. Il proclamait aux captifs la délivrance. Le gars est captif par un démon. Au nom de Jésus, tu es libre. Jésus, il brisait des chaînes, brisait des liens, il rendait libre le monde. C'était des cadeaux de Dieu. La grâce de Dieu a découlé à travers de lui. Puis la grâce s'est répandue jusqu'à aujourd'hui, 2000 ans plus tard, à tout le monde. Tout le monde peut le recevoir. Comme que ça nous dit dans Actes, au chapitre 2, il dit la promesse de Joël de répandre son esprit puis sa bénédiction, de prophétiser, etc., de vivre la présence de Dieu, puis des miracles, tout ça. C'était pour les serviteurs, les servantes, les enfants, les vieillards. Tout le monde peut recevoir la bénédiction de Dieu. Puis ça, c'est le début de la grâce. Ce qu'on appelle, comme Jésus a dit, de publier une année de grâce venant du Seigneur. Une année de grâce du Seigneur. Que le Seigneur, en parlant Dieu le Père, a décidé qu'il commençait une période à partir du moment de Jésus jusqu'à un moment fixé où ce que la porte va être fermée, la porte de la grâce. Il y a une période de grâce qui est ouverte puis qui est encore ouverte aujourd'hui de pouvoir obtenir les cadeaux de Dieu même si tu ne les mérites pas. Ça, c'est super. Tout ce que nous avons reçu et ce que nous recevrons de Dieu ne sont que par pure bonté de Dieu. Votre vie, c'est parce que Dieu est bon qui vous a donné la vie. C'est parce que Dieu est bon qui vous a donné votre famille. C'est parce que Dieu est bon qui vous a donné la santé. C'est parce que Dieu est bon qui vous a donné du travail. C'est parce que Dieu est bon qui vous donne la nourriture. Dieu, c'est ses bontés. Sauf que les gens prennent tout par acquis, puis ils rendent pas gloire à Dieu pour ce qu'ils ont reçu. Mais nous, on le sait que tout vient de Dieu. Puis c'est ses bontés qui font que nous soyons ce que nous sommes. Mais si notre vie est détruite, puis si ça va mal, parce que je voulais vous le lire aussi à cause de ses bontés, dans Jacques 1,17, ça dit « Toute grâce excellente, tout don parfait descende d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Tout ce que nous avons de beau et de bon vient de Dieu. » Adam et Ève, quand ils ont reçu la vie, Dieu les avait créés parfaits. C'est pas à faute à Dieu s'ils ont péché et ont tout perdu les bénédictions de Dieu. C'est à faute de leur décision, c'est suite à leur décision, à leur désobéissance. Mais Dieu, quand il crée quelque chose, quand Dieu donne quelque chose, c'est bon, c'est parfait. Mais si ça arrive dans notre vie que notre vie est détruite, que tout va mal, c'est pas la faute de Dieu. Faut pas oublier que c'était aussi écrit, c'est Jésus qui l'a dit, dans Jean 10:10, il dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. » Le voleur vient juste pour détruire. Puis là, c'était qui ce voleur-là? le voleur des promesses de Dieu, c'est le diable. Tout ce qui est détruit sur la planète, c'est à cause du diable. Si ça va mal dans vos vies, c'est à cause du diable. Oui, vous avez votre responsabilité. Je dis pas que c'est juste lui, mais c'est à cause de lui que le péché est entré dans le monde. Il était là pour assurer une bénédiction à Adam et Ève. Il n'était pas là pour les tenter, parce qu'il avait été créé comme un chérubin protecteur aux ailes déployées. Il a été créé parfait, lui-ci, puis il était supposé de bénir Adam et Ève, puis de les protéger. Mais à cause de la grandeur de son commerce, la tête y a enflé, puis là, il a voulu prendre la gloire de Dieu. Mais dit le voleur, c'est un voleur de bénédiction, c'est un voleur de tout ce que Dieu peut vous donner, comme promesse, comme bien, etc. Le diable est là pour dérober, égorger et détruire. Puis Jésus dit, moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Voyez-vous, la grâce de Dieu, c'est d'envoyer Jésus vers ceux qui se sont fait voler les promesses de Dieu, vers ceux qui se sont fait égorger, parce qu'il y a plein de monde qui sont morts dans la vie, puis c'est à cause des guerres, souvent poussées par l'ennemi, le diable. Puis pour tous ceux qui sont, leur vie est détruite, Jésus est envoyé afin que ses brebis aient la vie. En voulant dire que tous ceux qui iraient à Jésus pour obtenir la vie et être dans l'abondance. Dieu a envoyé Jésus pas pour juger le monde. Il est venu pour bénir le monde, un monde qui ne méritait pas sa bénédiction. C'est pour ça qu'il vient pour apporter sa grâce, ses cadeaux, sa faveur imméritée. À cause que Dieu, il est bon, puis il est grand, puis il est merveilleux, il est lousse dans ses bénédictions, même si on ne les mérite pas. Puis toutes ces bénédictions sont données à travers Jésus, à cause de Jésus, à cause de ce que Jésus a fait. Sinon, l'entièreté de la planète sera encore 100% dans les ténèbres, puis personne ne sera sauvé. C'est à cause de Jésus. Oui, merci Seigneur. Dieu est un Dieu de miséricorde, de compassion, de bonté, puis il nous donne tout par pure grâce. C'est un cadeau, c'est une faveur, tout ce qu'on a de Dieu. Dans Tite 2:11, ça nous dit, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée, puis cette grâce-là a été manifestée à travers Jésus. Ça a été promis dans l'Ancien Testament, ça annonçait la venue d'un Messie, ça annonçait d'avance qu'il recevrait l'onction, que l'Esprit du Seigneur serait sur lui, puis qu'il y aurait des miracles, des signes, des prodiges, puis que la prédication de la bonne nouvelle sera faite, même aux pauvres, puis que l'année de grâce a commencé. C'était prédit dans Isaïe, bien avant que Jésus vienne. Jésus est venu pour accomplir ce qui était écrit à son sujet. Fait que ça fait longtemps que Dieu avait ça dans son plan. Même s'il savait que l'humanité entière serait pris dans le péché puis dans les griffes du diable, Dieu savait avant même le début de la création qu'il enverrait son Fils un jour, quand les temps seraient marqués pour qu'il vienne accomplir l'ouverture de la grâce, de la bénédiction de Dieu qui était pour couler sur l'humanité entière. Merci Seigneur. Pour que nous obtenions les grâces de Dieu, ça a coûté un prix inestimable. L'humain n'aura pas été capable de payer ce que ça coûte pour obtenir quoi que ce soit devant Dieu. Dans nos mérites, on se dit, moi je mérite, mais pour sur quoi tu te bases? Moi je suis un bon gars, mais il n'y a pas de bon gars. La Bible a dit, notre justice est comme un vêtement souillé. On est comme du monde tout sale, tout beurré, puis on est tout, notre justice, elle vaut rien. C'est comme un vêtement flétri. C'est quelque chose que tu jetteras dans une poubelle, là. On mérite rien à la base, puis dans tout ce qu'on a pu faire de bon, ça vaut zéro devant Dieu. Il y a juste Dieu qui est bon. Nous, on n'est pas bons. on mérite rien. Puis il faut se le répéter parce que des fois, ça nous monte à la tête qu'on se pense bon. Puis ça, il faut se le répéter qu'on mérite rien. Tout ce qu'on reçoit de bon, comme c'est des cadeaux que Dieu nous fait, puis c'est toutes des faveurs qu'il nous fait parce qu'on mérite rien. Mais ça a coûté quelque chose pour qu'on puisse obtenir ces cadeaux-là. C'est pas des cadeaux gratuits, même si on dit que c'est un salut qui est gratuit. Il est gratuit parce que Jésus a payé pour. Il a payé ce que ça coûtait pour qu'on puisse l'obtenir gratuitement. Parce que c'est impossible pour les hommes de le mériter. Pour qu'on obtienne des grâces de Dieu, il a fallu que Jésus paye le prix. Dans Hébreux 2,9, ça nous dit, un petit peu plus loin dans le verset, « Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. » Ça ne nous dit pas juste « il est mort pour tous », ça dit « il souffrit la mort pour tous ». C'est une mort souffrante, agonisante, qu'il a fallu que Jésus passe volontairement dans Hébreux 2,9. Puis, il a subi les souffrances que ça prenait pour qu'on puisse être bénéficiaire des grâces de Dieu. Puis, ça a été une grâce de Dieu aussi d'envoyer Jésus pour accomplir cette mission-là. Parce que Dieu aurait pu dire qu'il s'arrange avec le trouble, je détruis toute cette planète-là, je vais en refaire une meilleure. Il aurait pu dire ça. C'est parce qu'il nous aimait d'avance, puis parce que c'est un Dieu qui aime déverser ses bontés, qui avait planifié d'envoyer son fils Jésus pour venir accomplir le sacrifice ultime que ça prenait de souffrir la mort pour tous, afin qu'on puisse, après ça, recevoir d'autres grâces, d'être pardonné, puis etc. Mais ça commence par le cadeau de Dieu, donner son fils Jésus. Ça dit dans Jean 3,16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Il l'a donné. C'est un don, c'est une grâce d'envoyer Jésus. C'est la seule bouée de sauvetage qui nous a été donnée pour qu'on puisse être pardonné. Il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Un autre cadeau d'avoir... Son Fils est un cadeau, puis d'avoir la vie éternelle, c'est un autre cadeau. Fait que Dieu, il y a plein de cadeaux en réserve à déverser à l'humanité. Puis ça fait toute partie de ses grâces. Merci Seigneur de nous révéler sa grâce. Il y a beaucoup d'avantages d'être né de nouveau. Parce que c'est ça qu'on est en train de regarder, nos nouvelles positions qu'on a en Jésus. À cause qu'on est en Jésus, il y a plein de choses nouvelles. Ça dit toutes choses sont devenues nouvelles. Plein de choses nouvelles, on a vu plein de points. On est au-dessus d'une trentaine de messages qu'on fait sur des différentes positions qu'on a en Jésus. Puis encore découvrir qu'on est sous la grâce, c'est encore une position qu'on a. Puis il y a beaucoup d'avantages que ça nous donne d'être sous la grâce. On ne peut pas tout voir, tout ce qu'on a par la grâce, parce qu'on pourrait dire, tout ce que j'ai maintenant à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de ma vie, c'est toutes des grâces de Dieu, parce que je ne mérite rien. Nous ne méritons rien. Mais il y a beaucoup d'avantages d'être né de nouveau. Si quelqu'un y hésite de dire, « Oh, je vais-tu vraiment donner ma vie au Seigneur? Je vais-tu l'accepter comme mon sauveur? Ça vaut-tu la peine de l'accepter? » Certainement, ça vaut la peine. Tu vas recevoir dans ta vie l'abondance des grâces de Dieu. Toutes tes nouvelles positions, les bénédictions, Dieu veut prendre soin de toi, etc. Plein de choses qu'il veut faire dans ta vie. Ça vaut la peine. Ça vaut même pas la peine, ça vaut la joie. On devrait dire que c'est une joie de lui donner notre vie pour tout ce qu'il a fait pour nous. Amen. Parce que quand tu nais de nouveau, tu tombes sous les grâces de Dieu. Puis c'est encore, t'as aucun mérite là-dedans. T'as juste dit oui à l'offre qu'il te faisait. Dans Éphésiens 2, 8, 9, ça nous dit, « Le cadeau de cette grâce nous permet premièrement d'être sauvés. » Puis ça, là, on n'aura pas assez de l'éternité pour dire au Seigneur, « Merci Seigneur que je sois là, merci Seigneur que je sois là, merci Seigneur que je sois là. » Parce qu'il y en a beaucoup qui ne seront pas là. Il y a plus de monde pas là que du monde là, assis dans la présence de Dieu, dans le paradis de Dieu, puis vivre la vie éternelle, une vie sans fin. On va être heureux, on va se sentir... Moi, j'ai même pas le cerveau assez gros pour sortir des mots, des mots qui pourraient dire quelque chose de plus gros que juste les simples mots, je vous dis. Qu'on peut s'imaginer, c'est inestimable, c'est ineffable. Trouvez-en des mots, je sais même pas qu'est-ce qu'ils veulent dire. Merci Seigneur de nous avoir sauvés, puis qu'on se retrouve dans un jour dans son ciel. Puis se retrouver dans la position d'être devant Jésus, puis on va dire merci, 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 merci. On ne lâchera pas. Ça va être tellement extraordinaire. Merci, Seigneur. Dans Éphésiens 2, 8, 9, regardez bien ce que ça dit. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ça, là, ce verset-là, il est beaucoup utilisé pour nous faire comprendre que le salut, le fait d'être sauvé, c'est un cadeau que tu as eu que tu ne le mérites pas. C'est une grâce. Dieu dit qu'un. Je te donne d'être sauvé, je remets ta dette de péché. Je décide de te sauver et d'inscrire ton nom. C'est un cadeau qu'il nous fait. Immérité, puis on ne pouvait pas l'obtenir, ce cadeau-là. Il a décidé de nous le donner par pure bonté qu'il a mis ce plan-là en action de pouvoir être sauvé à travers Jésus-Christ. C'est un cadeau qu'il nous a fait. C'est une grâce, c'est une faveur qu'il nous fait. On ne la méritait pas, cette faveur-là. On est sauvé, mais n'oublions pas que c'est par le moyen de la foi. Il y avait une chose qui est importante que vous ayez dans vos vies. La foi. Puis pas n'importe quelle foi. Pas la foi en n'importe quoi. Parce que ça, c'est encore une autre incompréhension, parce que je l'ai entendu souvent de toutes les couleurs. Ils ont la foi, oui, mais ils ont la foi en Marie, puis ils pensent d'être sauvés. Ils ont la foi dans leurs œuvres, qui ont confiance qu'à cause qu'ils ont fait beaucoup d'œuvres, qu'ils ont fait plus de bonnes œuvres que de mauvaises, qu'ils vont rentrer au ciel. Je regrette, ça marche pas de même. C'est pas la foi dans tes œuvres. Puis Jacques le dit, puis il y en a qui ont la croyance que Jésus, c'est le sauveur, puis ils pensent que ça va être assez pour les sauver. Non, c'est pas assez pour les sauver. C'est pas juste une croyance, les démons aussi croient que Dieu existe. Ça prend une foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses que tu espères, une démonstration de ce que tu crois. Tu le démontres. C'est une vie qui a des œuvres, qui démontre ta foi. La vraie foi, c'est une foi dans l'obéissance, puis ça, on va développer ça la semaine prochaine. Si Dieu le veut. Pense bien qu'il veut. qu'il veut. Mais c'est une grâce quand même qu'il te donne. Mais c'est important d'avoir la foi qui sauve. Parce qu'il y a des fois vaines, des fois qui ne sauvent pas. Puis la foi qui sauve, c'est la foi. On va le voir la semaine prochaine. Grâce à ta foi qui sauve, Dieu il te donne la grâce d'être sauvé. Puis c'est un cadeau qu'il te fait à cause que tu as saisi la grâce de Dieu. Par la foi. C'est pas par tes œuvres, pas parce que tu as accumulé un paquet de bonnes œuvres, ça sert à rien les œuvres, surtout pas les œuvres de la loi. On l'a vu que la semaine passée, que la loi de Moïse n'a pas servi à sauver personne. Ça a juste mis de l'ampleur pour démontrer comment est-ce qu'on était grandement pécheurs, parce qu'on l'a tout transgressé d'un bord puis de l'autre. C'est pas par les œuvres afin que personne se glorifie. Fait que l'important, pour nous aujourd'hui, c'est de le savoir que Dieu veut déverser ses grâces. Disons que l'ouverture de la grâce est là, accessible, parce qu'elle a commencé, on est dans l'an de grâce 2017. Ça fait 2000 ans et plus qu'on a la possibilité, nous terriens, de pouvoir entrer, recevoir, de puiser les grâces de Dieu. Puis le seul moyen d'épuiser, c'est par ta foi. T'importe, c'est par le moyen de la foi qu'on va chercher tout cela. Puis ça, il faut marcher dans la foi, la vraie foi. Amen. Cette grâce qui nous a été donnée ne peut se saisir que par un seul moyen, la foi. On va le voir dans d'autres versets aussi. Il nous a ressuscités avec Jésus. Avant, on était des morts, on l'a vu déjà dans notre nouvelle position, qu'on est maintenant des êtres ressuscités avec Jésus. On est assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Présentement, on attend juste que notre corps se ramasse là. En attendant, on est encore les deux pieds sur la terre, mais nous, spirituellement parlant, t'es ressuscité, t'es un être ressuscité, puis c'est un cadeau, c'est une grâce que Dieu t'a faite de t'avoir ressuscité. Il nous a ressuscité avec Jésus, puis il nous a fait grâce de toutes nos offenses. C'est ce qu'on voit dans Colossiens 2:13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Fait qu'imaginez, là, depuis que vous êtes au monde, combien vous en avez fait d'offenses. Puis je pense que le rouleau se déroule, puis il se déroule, puis le loup traverse la rue. Là. Il est immense. Ça, c'était tout des péchés, puis ça en prenait juste un pour rentrer. On a tous une liste. Puis il nous a fait grâce pour toutes nos offenses. Il dit, qu'hein, je te gracie de tout ça, ta facture que t'as, qu'hein. Main et temple là-dessus, payé par Jésus. Tu n'as plus besoin de la payer, ta facture de péché. Tous tes péchés que tu as faits jusqu'au moment que tu acceptes Jésus sont tous lavés. Merci Seigneur. Puis ça, c'est encore une grâce qui nous débarrasse de cette liste de péchés-là. J'espère qu'il va effacer le film avec, parce que mais qu'on arrive là au bord. Ça ne sera pas toutes des images qu'on va voir, les vidéos d'un puis de l'autre, c'est pas toutes des images édifiantes ou qui se montrent en public. Faut qu'il y ait censuré des bouts, c'est sûr. Non. C'est pour ça qu'en attendant, sachant qu'on est sous la grâce, profitons donc de faire un effort de vivre d'une manière qui plaît à Dieu, de vivre d'une manière sainte, juste, irréprochable. Qu'on arrive à... On en parle souvent, mais il faut devenir comme Jésus, sans péché. C'est le but à atteindre. Visons cela, là, que notre vie soit conforme comme le Maître s'attend de nous. La grâce de Dieu nous permet aussi d'être déclarés justes et de marcher en paix avec Dieu. C'était impossible que tu sois en paix avec Dieu avant que tu reçoives son cadeau qui te gracie de tes fautes. On sent, surtout ceux qui sont sous la conviction du Saint-Esprit, là, parce que le Saint-Esprit ne veut pas t'amener à te sentir dans paix avant que tu t'acceptes Jésus. Il veut que tu réalises ton état de péché. C'est pour ça qu'il dit qu'il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Il veut te le montrer que tu es dans le péché. Puis il travaille sur ta vie pour que tu t'arrives, dis oui, c'est vrai, je suis dans le péché, c'est vrai que Jésus est mort sur la croix pour moi. Puis là, il veut t'amener à l'accepter. C'est ça l'œuvre que le Saint-Esprit fait pour amener tous les individus à accepter Jésus. Puis il dit, mon esprit sera répandu sur toute chair. Ça veut dire qu'il travaille sur tout le monde. Faut pas penser que Dieu passe à côté du monde. Tous ceux qui vivent, il veut pas les voir périr, il veut les voir venir accepter Jésus. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui sont à l'écoute de puis obéir, mais ils travaillent sur tout le monde. Ça, c'est quand même bon de le savoir parce que si vous êtes en train d'attendre que vos enfants se convertissent, mais croyez que Dieu est en train de travailler déjà dans leur cœur pour les amener à recevoir Jésus. Puis tant que vous priez, continuez à prier, le Saint-Esprit ne les lâche pas, puis il travaille, puis même s'il rejette Dieu là, il continue à travailler, puis il veut un jour les voir là, en train de servir le Seigneur. Fait que, il travaille. S'il a réussi à le faire avec nous, croyons qu'il est capable de le faire avec les autres. Parce qu'on n'était pas meilleurs que ceux qui sont rebelles aujourd'hui, on était nous-mêmes des rebelles. Dans Romains 5, 1 et 2, ça nous dit, « Étant donc justifiés par la foi. » Voyez-vous encore le mot « foi » C'est par le moyen de la foi qu'on a reçu la grâce d'être justifié. C'est la foi qui nous fait saisir toutes les promesses de Dieu. C'est donc, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous, si vous êtes en paix aujourd'hui, si vous vivez la paix de Dieu, vous avez l'assurance du salut, puis vous vivez cette paix de vous sentir correct devant Dieu. Cette paix-là, c'est encore une grâce que Dieu t'a donnée à cause qu'il t'a donné la grâce de te déclarer juste. Puis là, tu sais que tu marches dans la justice de Dieu par la foi, à cause que tu as la foi. Ça te permet de le vivre toi-même, d'être dans la paix. Tu ne te fies pas juste sur l'autre qui te dit, « Ah, tu dois être dans la paix à cause de Jésus. » Tu n'as pas besoin de te le faire dire, tu le vis. Est-ce que vous êtes de ceux qui vivent la foi en Jésus? Est-ce que vous expérimentez sa paix qui vous donne l'assurance de dire, « Je fais partie de sa gang, je suis sauvé. » Puis ça, c'est une grâce qu'il donne quand tu le vis. En autant que tu marches dans la foi, puis ça, on va le voir la semaine prochaine. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce. On le doit à Dieu d'avoir eu par la foi l'accès à cette grâce, parce que tous les mérites vont à Dieu. C'est Dieu qui a tout préparé pour que je puisse le recevoir. C'est Dieu qui m'a convaincu pour que je puisse aller à Jésus. Puis c'est Dieu qui m'a montré tout ce qu'il fallait pour que je la reçoive. J'ai juste tendu le bras pour le saisir. C'est juste ça qu'on a à faire. Faut le saisir, ce cadeau-là. Faut marcher par la foi. Jésus est mort pour pardonner mes péchés. Il n'est plus question, je me laisse voler par le voleur, le diable. Hein? C'est pas juste pour les gens dans le monde que le voleur, il agit en voleur. Même pour des chrétiens, des fois, on se fait voler la joie de notre salut. On se fait voler des promesses de Dieu. Puis il y en a qui se font voler même l'assurance de leur salut, puis ils n'ont plus la foi pour lui faire saisir, qu'ils sont sauvés à cause de la qu'ils ont mis leur foi en Jésus. Laissez-vous pas voler par l'ennemi. Saisissez par la foi ses promesses, gardez-les par la foi jusqu'à la fin. C'est à vous, Dieu l'a donné, puis il vous le répète, puis je vais continuer à le répéter, moi et tout. Il faut garder la foi jusqu'à la fin. Oui, on répète ce qui est écrit là, puis on le répète, faut le répéter. Il faut aussi longtemps, jusqu'à quand vous pensez qu'on doit se répéter, qu'on doit marcher? Hein? Jusqu'à notre mort. Il dit... Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Si je suis là aujourd'hui, là, puis je peux dire on est aujourd'hui, donc il faut encore persévérer dans la foi. La journée que je serai plus capable de dire, j'ai plus besoin de ça, parce que je vais être mort. Fait qu'en attendant, si je peux dire qu'on est aujourd'hui, fait qu'il faut encore s'exhorter à persévérer dans la foi jusqu'à la fin. La grâce nous permet aussi d'être devenus des héritiers de toutes les promesses de Dieu. La grâce nous permet d'être des héritiers de toutes les promesses de Dieu. Tout ce que Dieu a promis dans sa parole, mais c'est une grâce qu'il nous a faite de nous offrir tout cela. Pense à tout ce qui est écrit là comme promesse. C'est un cadeau que Dieu a décidé de vouloir nous offrir en Jésus-Christ, à cause de notre nouvelle position. Dans Romains 4, 16, ça dit, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce. Donc, on voit encore que la foi est importante, parce que les héritiers le sont par la foi, afin que ce soit par grâce. La foi est le moyen qu'on saisit la grâce de Dieu, qu'on la prend, puis qu'on la garde pour nous, puis on fait attention pour ne pas se la faire voler. afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais à celle qui a la foi d'Abraham, le père de tous. Fait que on fait partie de la postérité d'Abraham aujourd'hui. On l'a expliqué dans une autre étude. En Jésus, quand tu acceptes Jésus, tu reçois toutes les bénédictions qui est en Jésus, puis tu es un fils d'Abraham, parce que tu marches par la foi. Puis c'est ceux qui marchent par la foi dans les promesses du Messie qu'on obtient toutes les promesses d'Abraham, que la bénédiction s'étendra sur toutes les familles de la terre. Puis on participe à cela. La bénédiction est entrée dans ma vie, donc dans ma maison. Puis là, on peut dire, moi, ma maison, nous servirons l'Éternel. Puis on est là pour servir l'Éternel en s'accrochant par la foi, puis en gardant ses promesses, puis même en les réclamant, celles qu'on n'a pas encore. Il faut continuer à les demander par la foi, parce qu'on va dire à Dieu, toutes tes promesses sont oui, amen pour nous. On les saisit par la foi. C'est oui, ces promesses. C'est pas, il ne nous a pas donné des promesses pour dire non, je veux pas vraiment t'es donner. Dieu, c'est pas un menteur. Dieu, il a fait ses promesses, puis il veut nous les donner. Puis il veut que chacun puisse en jouer, en profiter. Prenez-les, c'est à vous. C'est par la foi qu'on les saisit. Amen. Celui qui est sous la grâce, cela lui permet aussi d'avoir la victoire sur le péché dans sa vie. Dans Romains 6, 14, ça nous dit clairement, « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non seulement sous la loi de Moïse, mais vous êtes sous la grâce. » À cause qu'on est sous la grâce, Dieu fait une œuvre puissante par son Saint-Esprit, par le sang de Jésus, puis par tous les moyens que Dieu a donnés, les bénédictions qui sont en Jésus. Tu es même libéré de la loi de Moïse, on l'a vu la semaine passée. Puis à cause que tu es sous la grâce, le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Tu peux être libre de tous tes péchés. Si tu es encore esclave d'un péché, c'est à cause que tu te livres là-dedans et tu ne veux pas t'en sortir. Parce qu'en Jésus, tu as la promesse que tu peux être libre de tous tes péchés. Mais il faut que tu saisisses en cause-là par la grâce. Par la foi, excusez. Si tu saisis par la foi, tu te mets à croire, j'ai plus à me livrer à cette affaire-là. Je suis libre, je suis plus sous la loi, je suis sous la grâce. Puis maintenant, en étant sous la grâce, je peux être libre de mon péché. Peu importe le péché, il n'y a pas de péché plus fort que Dieu. Parce que le Saint-Esprit fait mourir les actions de ton corps. Puis il t'a libéré de la loi, puis quand tu étais sous la loi, c'est comme si le fait d'être sous la loi, ça exerçait une puissance sur toi qui te rendait encore plus pogné dans le désir de pratiquer le contraire à ce que la loi disait. Maintenant, tu n'es plus sous la loi, que ça nous dit dans ce verset-là, dans Romains 6, 14. Le péché n'aura point de pouvoir sur vous parce que vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Puis si tu es sous la grâce, il y a une puissance qui est agissante pour que ça soit facile de dire non, j'en veux plus, ou dire arrière de moi, Satan. Tu as la victoire. Il dit, je vous ai donné la puissance de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Fait que si on patauge encore, pogné dans des péchés, c'est juste parce qu'on n'a pas réalisé que le cadenas est débarré, puis on pourrait l'enlever tout de suite, cette chaîne-là. Son défaite, la puissance du péché, c'est fini. Tu peux être une personne qui marche 100% dans la délivrance, dans tous tes points de ta vie. Jésus a reçu l'onction pour rendre libre les captifs. Fait que t'as pas de raison d'être encore esclave. Tout est accompli. Tu as juste à saisir par la foi, puis tu vas l'expérimenter. Puis ça marche en plus, parce que je le vis. Amen. Gloire à Dieu. Il y a des choses, des fois, là, c'est parce qu'on veut pas être délivré. On aime peut-être cette affaire-là, puis on reste là-dedans parce qu'on aime cette affaire-là. Le vrai lien, là, c'est notre amour et notre affection à ce péché-là qui nous retient captifs. Parce que Jésus a débarré le cadenas, ça fait longtemps. Si tu es en Jésus et tu marches par la foi, tu as la puissance de goûter ses délivrances. C'est déjà tout accompli, c'est là, ça fait partie de la grâce de Dieu. Jésus a dit à ses disciples, il a dit ça à ceux qui croyaient en lui, il a dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, puis la vérité va vous rendre libre. » Il y a une promesse de devenir libre du péché, mais faut le saisir. Demeure ancré dans la parole, mets ta foi dans la parole, confesse les versets de la parole, puis tu vas l'expérimenter. Et dis, tu restes dedans, tu vas connaître la vérité, puis tu vas devenir libre. Faut chercher à mettre notre foi. C'est par la foi qu'on saisit les diverses grâces de Dieu. Maintenant, étant sous la grâce, nous ne sommes plus sous la loi de Moïse, on le voit la semaine passée, nous pouvons servir Dieu dans un esprit nouveau. Avant, on était pognés à cause de nos péchés. Notre esprit nous ramenait à considérer notre état, puis on aimait bien des affaires de péché, on les aimait, puis on était pognés dans plein d'affaires, puis on était dans une vie complètement contraire au plan de Dieu, puis on était ennemi de Dieu par nos offenses et par nos péchés, puis on était privés de la gloire de Dieu, privés de toutes ses grâces, de sa puissance, de son action qu'il aurait pu faire dans ma vie, puis j'étais pogné là-dedans, puis j'étais pas capable de m'en sortir. Maintenant, ça nous dit, dans Romains 7:6, « Maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. » On peut servir dans un esprit nouveau. Puis, à mesure que vous comprenez les diverses vérités de Dieu, vous êtes en train de recevoir un lavage du cerveau pour pouvoir vivre dans un esprit nouveau. Vous n'êtes pas obligé de rester comme vous étiez. Vous n'êtes plus obligé de rester comme qu'on était. On peut marcher dans la liberté et la gloire des enfants de Dieu. Contrairement à la loi de Moïse, dans la période de grâce, Dieu use encore plus de patience envers nous. Parce que dans la loi de Moïse, ça niaisait pas. Si le gars péchait, c'était amener des témoins puis lapider drette là. Ou il était exclu du peuple aussi, ou Dieu le mettait à mort instantanément. Le gars, il était, même si c'était d'une bonne volonté, si tu péchais, le gars est allé mettre sa main sur l'arche de l'Alliance, il n'y a pas d'affaire à toucher à ça, il est tombé raide mort. Puis il y en a d'autres qui ont été engloutis par un jugement de Dieu, d'autres sont fait lapider, d'autres sont fait exclure du peuple. La loi de Moïse, là, c'était t'es pogné là-dedans, puis tu as des jugements, des condamnations, puis la malédiction. Mais dans le temps de la grâce qu'on vit aujourd'hui, Dieu il a décidé de faire comme une parenthèse de grâce où ce qui va user plus de patience envers ses créatures. Puis ça, c'est dans le but de nous amener à réaliser nos péchés, puis demander pardon, puis s'en sortir. Parce qu'il veut pas qu'on reste dedans. Puis il a plus de patience envers nous. On voit ça dans 2 Pierre 3:9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, en parlant à des chrétiens, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Il dit, il use de patience envers vous. Il ne parle pas aux gens du monde. Oui, il étire le temps pour que la dernière brebis qui devait rentrer entre. Mais ce verset-là s'adresse à des chrétiens. Puis Dieu, c'est comme s'il use de patience, puis il étire ses promesses, puis il veut donner la chance à toutes ses brebis de se repentir pour qu'aucune périsse. Si on est encore là aujourd'hui, c'est parce que Dieu y étire ça pour que tout le monde soit à jour devant lui. Parce que tu peux être chrétien, puis pratiquer encore des péchés, mais sous la grâce, il t'a pas balayé tout de suite, là. Dieu y est patient, puis il continue à travailler sur toi pour te montrer que c'est pas correct. Il continue à te parler. Là, tu le sens qu'il y a des affaires pas correctes. C'est comme s'il met le doigt là, sur un problème. Tu le sais qu'il met le doigt sur un problème, puis il te le montre. Des fois, il peut même te réveiller la nuit. Il l'a fait pour moi, puis je suis sûr qu'il va le faire pour vous. Il te réveille la nuit, là, puis c'est comme si tu voyais son doigt te pointer à penser à une affaire. Tu l'as dans l'esprit bien clair, ce problème-là. Il veut que tu en arrives à te repentir, puis tu l'abandonnes au Seigneur. Puis tu n'as pas le choix de passer par là. Puis si le temps s'étire dans la vie, puis continue à te le faire, dis merci au Seigneur d'être patient envers toi, puis te le montre encore. Puis dis, lâche-moi pas, continue à me le montrer jusqu'à temps que j'aille vraiment lâcher ce péché-là. Parce que il y a d'autres versets qui sont extrêmement clairs. Il n'y a aucun impudique, il n'y a aucun idolâtre, il n'y a aucun menteur, aucun ci, aucun ça, il nomme des choses qui vont rentrer dans leur royaume. Dieu veut nous amener à ce qu'on soit irrépréhensible. Dans sa grâce, Dieu veut t'amener à ce que tu sois obéissant pour que tu participes au sang de l'aspersion. Il y a d'autres versets, un autre verset qui dit ça. Je dis pas que tu perds ton salut, puis tu le gagnes, tu perds ton salut, tu le gagnes 10 fois par jour, ça marche pas de même. Dieu est patient, puis il parle, puis il te montre des affaires. Obéissez au Seigneur. Relâchez-les au Seigneur. Mandez pardon au Seigneur aussi, chaque fois que vous faites de quoi. Puis demandez-y qu'il fasse mourir les actions de votre corps. Puis s'il vous manque des affaires, c'est quelque chose qui vous manque d'amour, vous manque de patience. Demandez-y de vous revêtir de ce qui vous manque, de la nouvelle nature, on l'a vu mercredi passé. C'est lui qui va le faire, mais il fera pas si tu l'acceptes pas qu'il le fasse. Si t'es pas réellement repentant, il fera pas. Il va attendre que tu lui demandes pardon, puis que tu y laisses, puis que tu abandonnes cette affaire-là. Puis Dieu veut le faire. Puis Dieu, c'est parce qu'il nous aime qu'il insiste comme ça. C'est pas si ça nous tente, c'est qu'on doit tous obéir à ce qui est écrit. Bon, faut pas suivre les modes, puis les. Mais s'ils le font dans des églises, ils pêchent. Puis Dieu, il est pas dans cela, là. Puis Dieu va tenir compte de ces affaires-là. Puis tu peux pas être comme ça. Faut que tu sois saint. Faut que tu sois comme c'est écrit dans la parole. Puis faut que tu marches dans les choses que Dieu te montre, il nous montre dans sa parole. Tu peux pas te laisser aller dans des affaires que Dieu veut pas. Un chrétien est appelé à marcher dans la sainteté, dans la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mais comme je vous dis, use de patience en vous. Dans 2 Pierre 3:9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, mais comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Puis ça, c'est envers nous. Fait que ça s'adresse à nous, l'appel de la repentance. Les silences de Dieu dans nos vies sont souvent parce qu'il nous laisse du temps pour nous repentir. Cela fait partie de sa grâce, de nous laisser du temps pour se repentir. Des fois, on tourne en rond, on est en silence, qu'on ne sait pas pourquoi, qu'on n'entend plus Dieu nous parler, puis c'est comme si on se sent pas proche de Dieu ou qu'on vit plus la paix de Dieu. Bon, mais il y a des raisons pour ça, puis c'est sûr que Dieu nous montre quelque chose. Si tu y appartiens, il te montre, repens-toi. Son temps qui étire ça, là, c'est parce qu'il veut mettre de la pression dans ta vie. Cherche de tout ton cœur à trouver c'est quoi le problème. Dans ce passage-là, dans l'Apocalypse 2:21, Dieu parle dans une église un problème où il y avait une femme qui se disait prophétesse, puis elle enseignait, puis elle séduisait les serviteurs en leur disant de manger des viandes sacrifiées aux idoles, puis de se livrer à l'impudicité. Puis Dieu, au verset 21, l'Apocalypse, chapitre 2, il dit, « Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. » Ça veut dire qu'il y a du monde qui ont eu du temps pour se repentir. Dieu, s'il fait un silence là dans ta vie, c'est pas parce qu'il t'a rejeté, mais il te laisse du temps pour que tu comprennes ton état. Puis s'il nous laisse du temps, c'est dans le but qu'on se repente. Je sais qu'on est quand même libre de dire oui ou de dire non, Seigneur. Dans ce cas-là, elle a dit non. Elle ne voulait pas se repentir. Ça peut arriver qu'une personne chrétienne refuse de se repentir et de changer sa vie parce qu'elle ne veut pas changer. Ça peut arriver, puis c'est pas parce que Dieu travaille pas dans sa vie, Dieu travaille dans tous les chrétiens. Tous ceux que Dieu reconnaît pour ses fils ou ses filles, Dieu agit, puis il met de la pression. Des fois, il serre la vis, des fois, c'est des silences. Des fois, c'est il te le montre, c'est ça, cette affaire-là qu'il veut que tu chantes. Bon, mais faut obéir. Il nous laisse du temps pour se repentir, puis ça fait partie de sa grâce. C'est parce que Dieu nous aime tellement qu'il veut pas nous laisser aller, puis qu'on se perde. C'est ça la grâce de Dieu aussi. Puis il faut comprendre aussi que le fait d'être sous la grâce, c'est pas irréversible. Des fois, il y en a qui pensent, une fois sauvé, toujours sauvé, je regrette, c'est pas de même, ça marche. Parce qu'il y a des versets qui le disent que c'est pas ça. Parce qu'il dit, nous devons persévérer dans la foi qui sauve. Puis il y en a plein de versets dans ce sens-là. Dans 2 Corinthiens 6, 1, il dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Parce qu'il est possible que des gens qui marchent avec Dieu l'aient reçu pour rien. Que ça ne leur servira pas de salut parce qu'ils ont négligé leur vie, puis ont été une occasion de chute, puis ils sont livrés dans le péché, puis ils débarquent de la grâce. Ça va même jusqu'au point, comme c'est dit dans Galates, au chapitre 5, le verset 4, j'achève, les Galatiens, eux autres, c'était des gens qui étaient sauvés par la foi, la même chose que nous, c'est les gens, on voit ça dans la Bible, l'épître de Paul aux Galates. Il avait commencé à se détourner de la foi en Jésus pour retourner à pratiquer la loi de Moïse. C'est pour ça que Paul leur a dit dans Galates 5:4, quand une personne est prête à abandonner sa foi qui sauve en Jésus, puis commencer à pratiquer la loi de Moïse, qu'on n'est plus là-dedans, mais ils veulent retourner à cela, puis penser d'être sauvés par cela, après avoir reçu le cadeau, Paul il leur dit, vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Fait que le cadeau de la grâce, c'est pas irréversible. Tu es sous la grâce, c'est comme la grâce, c'est comme un parapluie qui te couvre puis qui te protège. Tu es sous la grâce parce que tu as la foi qui sauve. Si tu décides de mettre ta foi dans d'autres choses, là, ou si tu vis tout croche dans ta vie, puis tu vis dans le péché, puis tu te repens pas après avoir, au bout de la patience de Dieu, à un moment donné, tu n'es plus sous la grâce. Tu es déchu de la grâce. Tu es séparé de Christ. Ta justification, là, tu penses être juste par quoi, là? Es-tu rendu que tu crois que les religions vont te sauver, puis tu vas retourner dans ta religion que tu avais avant? Il y en a qui ont retourné dans leur religion qu'il y avait avant, puis il y en a qui ont retourné dans des fausses religions. Puis ils pensent que la nouvelle religion va les sauver, mais ils sont perdus. Ils débarquent de la grâce. C'est pas irréversible. C'est pour ça qu'il faut demeurer par la foi, dans la persévérance, dans la foi qui sauve, pour être toujours recouvert de la grâce de Dieu. Voyez-vous? Le dernier verset, c'est l'apôtre Paul connaissait la grâce de Dieu, puis il s'y était engagé. Quand tu connais la grâce de Dieu, puis la grandeur de la grâce de Dieu, tu comprends que tu es sauvé et que tu ne le méritais pas. Mais ça t'amène à prendre des décisions devant Dieu. Puis à t'engager. Tu veux suivre Dieu. Tu veux pas rester comme tu étais. Puis tu veux t'investir parce que tu aimes tellement Dieu à cause de ce que Dieu a fait dans ta vie, de tous ces cadeaux et ces grâces qu'il t'a faites que tu ne méritais pas. Mais tu vas t'engager entièrement dans l'annonce de la bonne nouvelle. Amen. Dans Actes 20, 24, c'est ça que Paul il nous dit. Je fais pas de moi-même aucun cas de ma vie comme ça m'était précieuse. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, puis le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. La joie de l'apôtre Paul, c'est moi, c'est de servir le Seigneur, puis d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Cette période de grâce qui est encore ouverte, puis qu'on exhorte tout le monde à la saisir maintenant. Parce que la Bible nous le dit, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Acceptez Jésus comme votre sauveur personnel. Puis si vous êtes déjà chrétien et que le Seigneur vous montre des points qu'il faut vous abandonner, remettez-les au Seigneur. Demandez pardon au Seigneur. Abandonnez les voies de péché. Mettez vos vies en règle. Réformez vos vies conformes à la parole. Puis vous allez être bénis. Puis les grâces de Dieu vont déverser encore plus sur vous. Puis vous allez goûter les délivrances, les transformations, les bénédictions que Dieu a pour vous. S'il y en a qui veulent accepter Jésus comme leur sauveur personnel, c'est le moment. Je fais un appel parce que je crois qu'il y en a qui écoutent ce message, puis Dieu les appelle à accepter le cadeau offert, la grâce offerte par Jésus pour être sauvés, pour avoir la vie éternelle, pour avoir le pardon de vos péchés, pour toutes ces bénédictions, ces promesses vont vous être données, mais il faut que vous preniez une décision de l'accepter, de le recevoir maintenant. Rejetez pas ça à demain, faites cette prière-là aujourd'hui. S'il y en a qui veulent l'accepter, je vous offre de faire la prière maintenant pour vous engager à suivre Jésus. Faites cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur, que je suis perdu, mais je sais que Jésus, il est mort sur la croix, il a versé son sang pour que je puisse être sauvé. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre, te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Si quelqu'un a fait cette prière, sache que Dieu l'a entendu, puis Dieu pardonne tes péchés. Tu es maintenant sauvé. Marche avec le Seigneur. Persévère dans la foi. Garde la foi. Laisse-toi pas voler les promesses de Dieu. Marche avec d'autres chrétiens. Va dans une église évangélique. Marche avec le Seigneur. Puis le Seigneur, mais il va déverser ses bénédictions dans ta vie. Puis tu vas expérimenter ce qu'il a décrit pour toi. Puis s'il y en a d'autres qui vivent des combats, ils vivent des luttes, ils ont des choses que le Seigneur leur montre, qu'il faut qu'ils abandonnent ces choses-là. Dieu, il vous connaît entièrement, puis si vous sentez qu'il y a un point ou des choses que Dieu vous montre, vous devez obéir au Seigneur. Il faut y remettre ça entre ses mains maintenant. Il faut y demander pardon pour ces choses-là. Puis demandez la délivrance au Seigneur, puis il va vous le donner. Restez pas dans l'amour du péché. Soyez ferme dans la foi que Jésus est mort sur la croix pour vous délivrer, pas nécessairement juste pour vous pardonner, pour vous délivrer de tous vos péchés. Le sang de Jésus, vous vous en purifiez, ça soit disparu complètement, puis il n'existe plus. Faut le faire, ce choix-là. Faut pas laisser les années passer, puis passer à côté des bénédictions de Dieu à cause qu'on marche tout croche. Je vais faire une prière avec vous, puis je vous encourage à remettre le ou les péchés que Dieu vous montre d'abandonner, puis d'y remettre dans ses mains. Faites cette prière avec moi. Père, je te remercie pour ta grâce, pour ta patience, puis l'œuvre que tu veux faire en ma vie. Je te demande, Seigneur, de me délivrer de ce péché-là. Je te le remets entre tes mains. Je te demande pardon et purifie-moi. Donne-moi d'expérimenter la délivrance de ce péché-là. Que je sois libre. Je la saisis par la foi. Je crois que tu m'en libères. Je crois que tu me délivres maintenant. Puis merci, Seigneur, de cette victoire que tu me donnes dans le nom de Jésus. Amen.